Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration. Ils veulent le chaos.
On a bien vu pendant des années et des années que les manifestations pacifiques ne fonctionnaient pas. Que ce soit contre les lois retraites, les lois El-Khomri, etc. Et que les modes d'action plus violents, plus directs, ont fonctionné.
Toute violence est inacceptable en démocratie.
Entre les manifestations à Hong Kong et celles en France des Gilets jaunes, on voit dans les cortèges deux modes d'action s'opposer, les partisans d'actions non violentes et ceux qui au contraire veulent jouer le coup de force. Cette dichotomie, vieille comme l'histoire des mouvements sociaux, semble ne pas trouver de réponse claire. Qu'est-ce qui est plus efficace entre l'action pacifique d'une part ou le fait de prendre les armes et d'aller à l'affrontement? Bonjour Manuel Cervera-Marsal.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université d'Aix-Marseille, rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, est-ce que la non-violence est plus efficace que la violence dans le cadre d'un mouvement social?
Il y a une première question qui est de savoir qu'est-ce que l'efficacité? Comment est-ce que, en tant que sociologue, on peut mesurer l'efficacité d'un mouvement social? Est-ce qu'il faut regarder à court terme ou à long terme? Parce que, par exemple, imaginez un mouvement qui revendique une augmentation des salaires. Vous pouvez avoir, un an plus tard, effectivement, le gouvernement qui a mis en place des salaires plus élevés. Mais vous pouvez regarder ça 5 ans plus tard. Et là, la politique d'austérité sera revenue. Deuxième question sur l'efficacité d'un mouvement social, c'est que on pourrait dire de façon assez intuitive qu'un mouvement est victorieux ou est efficace à partir du moment où il atteint ses objectifs. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'aucun mouvement social n'est monolithique. Dans tout mouvement social, vous avez différents acteurs et différents objectifs. À Hong Kong aujourd'hui, vous avez une partie des manifestants qui ont des objectifs ponctuels, qui sont supprimer la loi sur l'extradition des prisonniers vers la Chine, et vous avez une autre partie des manifestants qui a des objectifs beaucoup plus, élevés, puisque eux veulent vraiment un changement de régime politique et élire l'ensemble de leurs dirigeants au suffrage universel. Donc voilà, déjà, ça c'est la première difficulté qui mobilise les réflexions scientifiques sur le sujet. Il y a une deuxième question qui est celle que vous souleviez, de savoir si la non-violence est plus efficace que la violence. Pendant très longtemps, la difficulté, c'est qu'on a eu des travaux scientifiques qui étaient assez militants, qui étaient réalisés par des gens qui se considéraient de manière plutôt ouverte comme des disciples de Gandhi et donc qui considéraient qu'il y avait clairement une supériorité morale de la non-violence sur la violence. Mais la question, si on est vraiment sociologue, c'est pas de savoir si moralement la non-violence est mieux, c'est de savoir si stratégiquement elle est plus efficace. Et il se trouve que depuis 10-15 ans, on a des travaux qui essayent de répondre à cette question avec des grandes enquêtes comparatives et statistiques. Et donc vous avez un ouvrage qui fait autorité, qui a été publié aux presses universitaires de Columbia en 2012 par deux chercheuses, Erika Chenovet et Maria Stefan, et elles ont pris 316 mouvements de contestation qui ont eu lieu entre 1900 et 2006, et elles ont comparé. Et il y a deux grands résultats à leur étude. Le premier résultat, c'est que les mouvements qui adhèrent de manière stricte à la non-violence sont 2 fois plus efficaces que les mouvements de résistance armée. 40% de succès pour la non-violence, seulement 20% pour les mouvements armés. Et le deuxième résultat important de leur étude, c'est que à partir du moment où un mouvement social dans un pays réussit à réunir 3,5% de la population, ce mouvement est certain de l'emporter.
De quel type de mouvement social on parle? Est-ce qu'on parle d'un mouvement social dans des pays occidentaux, dans des pays développés, ou dans des dictatures, ou dans des régimes autoritaires? Est-ce qu'il y a là aussi une différence notable, Manuel Cervera-Marsal?
Oui, très intéressant, parce que la plupart des 316 cas utilisés dans l'étude dont je viens de vous parler ont lieu dans des régimes qui sont soit autoritaires, soit franchement totalitaires et dictatoriaux. Et donc, en fait, c'est des mouvements sociaux qui visent à lutter contre la tyrannie, pour la défense des droits humains. Quand on regarde les mouvements sociaux dans des démocraties libérales, c'est différent. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement, ces mouvements, les mouvements, là je parle non violents, ont plus de difficultés à renverser des gouvernants ou à leur faire franchement changer de politique. Mais par contre, ils arrivent à introduire dans le débat public de nouveaux enjeux. Donc, elles parviennent à poser de nouveaux sujets, mais pas forcément à faire changer d'avis les décideurs politiques.
Ce débat, il a repris de la force, de l'importance dans le débat public, notamment pour autour des questions climatiques, quant à savoir si effectivement, eh bien, il faut faire des marches, signer des pétitions pour pousser les gouvernants à changer leur action et à prendre en compte l'urgence climatique, ou si au contraire il fallait avoir recours à des actions plus violentes, à de l'action directe. Si on reste au strict cadre de la démocratie et même de la France, on se rend compte que, eh bien, souvent, ce qui finit par faire basculer un mouvement qui est resté pacifique, ce qui finit par faire basculer une décision politique, eh bien, ça peut être justement la bascule dans la violence ou éventuellement le décès d'un manifestant. On peut penser à Rémi Fraisse récemment. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, il y a besoin d'atteindre ce seuil de violence, finalement, pour faire bouger les consciences et pour bien faire bouger aussi les décideurs politiques.
Les mouvements qui suscitent vraiment des réactions au plus haut niveau de l'État, c'est pas forcément les mouvements qui ont basculé dans la violence parce qu'il y aurait eu des morts du côté des militants ou même d'ailleurs, potentiellement, on peut imaginer du côté de la police. C'est les mouvements qui ont un côté spectaculaire. Ça veut pas dire que c'est violent ou que c'est non violent. Il y a du spectacle du côté de la violence, mais on peut voir ce même type de logique de l'image se mettre en place du côté de la non-violence. Quand vous avez des actions très théâtrales, comme celle par exemple des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron qui actuellement enlève son portrait dans les mairies pour symboliser le vide de sa politique climatique, là aussi ça a un fort écho.
Mais est-ce que ça a un résultat?
À court terme et de façon très directe, ça n'a pas de résultat. Mais ce qu'on essaye d'observer en tant que sociologue des mouvements sociaux, c'est aussi des résultats peut-être qui se produisent de manière plus indirecte, plus culturelle aussi, ce qui change dans les mentalités. Et là, il faut aller faire des enquêtes d'opinion avant et après un mouvement social pour voir si au niveau de l'ensemble de la population, les idées ont un peu bougé sur les questions qui ont été mises sur la table par les militants.
Le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous avez le sentiment que cette insurrection qu'on a qualifiée de populaire, qui donne encore beaucoup de grains à moudre à la sociologie pour définir exactement la nature de ce mouvement, mais en tout cas, qui a en tout cas une composante violente très forte dans l'opinion publique en tout cas, et dans la violence en tout cas symbolique contre la police, contre des devantures de boutiques, etc. Est-ce que cette violence-là a produit un effet politique?
Moi, je dirais que c'est pas uniquement cette violence qui a une efficacité, c'est bon, la combinaison entre ces actions-là et en parallèle des actions qui étaient strictement non-violentes. Et ça a abouti le 10 décembre 2018, si ma mémoire est bonne, au fait qu'Emmanuel Macron a effectivement débloqué 8-10 milliards d'euros.
Ce qui n'a pas interrompu le mouvement pour autant.
Ce qui me paraît frappant, c'est qu'il y a eu un deuxième mouvement social qu'on pourrait dire victorieux sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes, puisque un an auparavant, Emmanuel Macron a abandonné définitivement le projet. Et là aussi, on avait une espèce de combinaison entre des actions qu'on pourrait dire violentes, parce que des barricades érigées avec des cocktails Molotov, mais en même temps à côté des actions tout à fait non-violentes de fermes bio, etc. Et donc, ce que j'en retiens encore, c'est que la question est moins de savoir si le mouvement est violent ou non-violent pour réussir, que de savoir si, entre ces composantes plutôt violentes et plutôt non-violentes, il y a une forme d'alliance, de bonne entente, ou si, au contraire, ces deux composantes du mouvement vont se diviser et donc faire le jeu de leur adversaire.
Est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, selon vous, Manuel Cervera-Marsal, dans une sorte d'impasse sociale dans les démocraties occidentales, à un endroit où finalement il n'y a plus de renversement de pouvoir, où il devient très compliqué, malgré des manifestations populaires, de faire bouger les gouvernants, où finalement le jeu politique, le jeu social et du coup, d'une certaine forme, l'emprise syndicale se sont amoindries et sont un peu figées?
Beaucoup d'électeurs ont le sentiment que le fait de voter à gauche ou à droite conduit dans les grandes lignes au même résultat. Alors du coup, certains vont voir vers la manifestation, mais les manifestations, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, il y a 8000 manifestations, il y en a une dizaine chaque jour à Paris, ce qui fait qu'elles passent en grande partie inaperçues, et donc que la manifestation, comme le vote, se révèle quelque chose d'inefficace pour faire entendre sa voix. Et donc, en bout de course, on voit que ceux qui persistent à vouloir se faire entendre se tournent vers des modes d'action radicaux, mais la radicalité ne veut pas forcément dire la violence. Bien sûr, il y a une radicalité violente, mais il y a aussi une radicalité non violente. En tout cas, je vois clairement une radicalisation des mouvements sociaux qui fait miroir avec la radicalisation de l'État qui emprunte un chemin de plus en plus répressif. Donc on a une forme de polarisation aussi bien des contestataires que des décideurs politiques.
Merci beaucoup Manuel Cervera-Marsal. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'université d'Aix-Marseille et rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.